Sur les objets qu'on a échangés, on va avoir 45 minutes d'échange un peu à bâton rompu. Je voudrais vous remercier pour la qualité du travail qu'on a fait jusque-là. Ce travail-là, évidemment, il n'est pas du tout abouti, mais il nous permet de mettre un certain nombre de choses noir sur blanc, ce qui est très compliqué quand on a un public hétérogène en formation. Et nous faisons de cette hétérogénéité une richesse, dans la mesure où vous avez remarqué que ce que vous êtes, votre expérience professionnelle, votre histoire dans le métier et votre métier constituent aussi des univers qui sont tout à fait riches et qui ont rarement l'occasion de se confronter. Donc je vous invite à ce qu'on continue. On reprendra ce tableau-là dans d'autres séances pour essayer d'avancer. On va vous l'imprimer, on vous le redonnera demain. Ce que je souhaiterais, ce que nous souhaiterions, c'est que au fur et à mesure que vous allez avoir des apports, des échanges, du travail d'atelier dans cette session de 4 jours, que vous replaciez ces éléments, ces apports dans ce tableau, de voir quelle partie du tableau ça éclaire ou au contraire, quelles difficultés nouvelles ça fait surgir qu'on n'avait pas totalement encore identifiées. De manière à ce que progressivement, au cours de notre travail, nous arrivions non seulement à avoir de nouvelles connaissances issues de la recherche, mais que nous ayons aussi des échanges sur, mais dans nos métiers, par quel bout prendre ça, quels arbitrages faire, quelles priorités. Elisabeth a insisté ce matin plusieurs fois sur... Il y a des choses qui ont plus de rendement que d'autres, hein, même si elle l'a dit plus élégamment que ça. Je pense que du coup, ça vaut le coup dans nos métiers de savoir ce sur quoi nous considérons qu'il est intéressant, efficient d'investir, même si là-dessus, nous pouvons avoir des discussions, des controverses et des dilemmes. Est-ce qu'il y a des morceaux de questions que vous avez envie de poser à nos deux intervenants qui vous brûlent les lèvres et que vous voudriez absolument qu'elles nous aident à illustrer? Je vais juste en dire un, moi, mais le temps que je le cherche, vous pouvez... Alors, je vais juste reparler de la littératie, une seconde, parce que ce matin, tu as abordé ce terme qui, à la fois, est partout... Est pas toujours très bien défini. Et puis il y a un collègue qui a été chercher la définition dans Wikipédia, et ça donne ça. Selon l'Organisation de coopération et de développement, OCDE, la littératie est l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail, et d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Est-ce que tu peux nous dire... ta définition du mot, même si elle n'est pas tout à fait compatible avec celle de l'OCDE.
Oui, ma définition... Bon, c'est un terme qui est à la mode et c'est vrai qu'il est très flou. Hein, et y a, bon, je ne sais pas si je parlerai d'aptitude. Alors, quand je veux dire littératie, je prendrais peut-être plutôt dans une approche anthropologique par rapport à par exemple, un de ceux qui ont parlé de ça, qui est Jack Goody, un chercheur qui s'appelle Jack Goody, et qui est en... Il y a une approche historique et anthropologique, donc il ne raisonne pas en termes d'aptitude, lui. Mais il essaie de voir comment fonctionne la pensée, la loi, les règles, etc., dans des sociétés de l'écriture et, ou des sociétés orales. Bon. Alors, c'est plutôt une approche anthropologique. Donc, moi, je dirais la littératie, c'est plutôt un fonctionnement des individus dans la société plutôt qu'une aptitude. Et ça correspondrait au fait de se servir, d'avoir les dispositions plus que les attitudes, mais évidemment, il faut pouvoir le faire, hein, de se servir des médiations symboliques, au sens général, mais en particulier écrites, pour structurer son expérience, acquérir des connaissances, dire ce qu'on pense, etc. Alors, c'est à la fois dans la... le versant écrire et le versant recourir à écrire, pas forcément écrire des textes, ça peut être aussi faire des tableaux, des schémas, des listes, des choses comme ça, à la fois pour produire mais aussi pour comprendre, pour apprendre, pour élargir son expérience. Alors, au début, Goody parlait de littérature. Enfin, il donnait énormément de pouvoir à l'écrit, c'est-à-dire au médium lui-même, en disant que l'écrit, parce qu'il est durable, parce qu'il permet des organisations spatiales, je ne vais pas y revenir, hein, sur des colonnes, des classements, etc., il a un pouvoir de changer les pensées. Et donc, il y avait de changer les modes de pensée, pardon, de créer la conscience du des contradictions. Bon, à la limite, ça a donné quelque chose qu'il a récusé, qu'on entend, hein, c'est les premiers sens de Bernard Lahir, d'ailleurs, hein, d'opposer des sociétés de l'oral, où on était dans l'immédiat, dans le raisonnement complètement affectif, etc., à des sociétés scripturales. C'était le premier Lahir qu'il renie maintenant, hein, et qui serait au contraire avec une capacité de raisonnement distancié, etc. Bon. Alors, après, je pense que ça donnait trop de pouvoir, c'était trop magique. C'est-à-dire qu'on pensait que l'écrit en tant que tel avait un pouvoir de changer les raisonnements. Et c'est peut-être pour ça, cette vision-là, que, par exemple, on affiche partout dans la maternelle, enfin, on a l'impression que parce qu'il y a des affichages, des calendriers, des tableaux de tâches, etc., ça va créer quelque chose sur la structuration de l'expérience des enfants. On croit que c'est un peu magique. Alors, par la suite, Goody a distingué, parce que je ne voudrais pas faire un cours, mais il a distingué la littératie restreinte, puisque c'est, dans nos sociétés, bon, elles sont traversées par l'écrit, mais certains n'ont que la littératie, peuvent accéder, certaines sociétés ou certaines couches de notre société, qu'à la littératie restreinte. C'est-à-dire des usages du code, c'est-à-dire qu'ils savent déchiffrer, ils savent lire, mais ils n'utilisent pas l'écriture et le recours aux écrits, ou tableaux, etc., pour comprendre ce qui leur arrive, prévoir, maîtriser leur vie, acquérir des connaissances, etc. Hein? Et donc, c'est ça. Alors, je crois que c'est une notion anthropologique. Mais c'est sûr que ce que j'ai essayé de dire ce matin, c'est que ce sont des dispositions anthropologique, si on peut dire, c'est pas une simple compétence technique, hein, que de faire des tableaux pour prévoir son emploi du temps ou pour planifier des choses comme ça. Alors, ce qui me semble important, hein, simplement par rapport à littératie, parce que là, je trouve qu'il y a des flottements et l'école maternelle reçoit ça un peu, c'est qu'il faut pas l'intérêt de cette démarche par rapport à la culture lettrée ou autre. C'est qu'il ne faut pas forcément l'identifier à des formes lettrées de la culture écrite. Et, en particulier, je suis littéraire, hein, de formation, mais au livre, à la culture des livres, de la fiction, etc. Alors, on a tendance facilement à penser que la culture écrite, c'est la culture des livres, la culture de la fiction. Je n'ai pas l'importance, hein. Je ne dis pas pas de fiction et pas de livre de l'école des loisirs pour les enfants des ZEP, c'est pas ça que je dis, hein. Mais ce qui est vraiment important dans la notion de littératie, et que montre Lahir par exemple dans Tableau de famille, il montre que dans le même HLM, il y a des familles qui ont des pratiques de littératie même s'ils ne lisent aucun livre, s'ils ne lisent jamais de livre. C'est ceux qui prévoient, dans lequel l'écrit joue un rôle dans leur rapport au monde. Et donc, je vais peut-être arrêter là. Je crois que ça doit nous aider à voir par rapport à des activités. Moi, je pense à la technologie, à la fabrication, à plein de choses de la vie quotidienne. On peut faire intervenir ces usages-là de l'écrit, même si le contenu n'est pas noble, quoi, je veux dire, même s'il n'est pas. Ou s'il est utile. Alors, dernière chose que je veux montrer, que dit Goody dans ses ouvrages, pas les premiers, et dont on parle beaucoup moins, parce qu'on, comme souvent, on parle toujours du premier, sur le rôle de l'écrit dans la structuration de la pensée, c'est qu'il montre qu'en fait, dans la littératie qui n'est pas la littératie restreinte, l'écrit n'est pas isolable de toutes sortes de pratiques de langage. Et donc, ça rejoindrait un petit peu les questions de l'affichage, du calendrier en maternelle, etc. Ce qui fait que c'est des outils pour la pensée, c'est qu'ils sont intégrés dans des pratiques de langage, des pratiques de prévision, enfin, etc., qui sont en grande partie des pratiques orales. Et donc, la littératie, ça comporte aussi toutes les situations de discours et de langage qu'on a autour des écrits. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. Et donc, on a tendance à dire c'est magique. Enfin, la structuration écrite, les tableaux, les... enfin, toutes ces formats tabulaires, etc., ça structure la pensée. Et c'est pas vrai. Enfin, c'est pas petit à petit, Gaudier a montré que c'était pas ça, la littératie. Et que l'oral, ça fait partie de la littératie. Moi, je sais pas si j'ai répondu. Enfin, je crois que c'est important de distinguer la noblesse des contenus. Enfin, peut-être que je suis un de mes dadas. La noblesse des contenus, sur, par exemple, le côté très relevé de certains ouvrages qu'on étudie en littérature avec les enfants, enfin, très culturellement, très légitime. Et la qualité, l'exigence des opérations mentales, de réflexion, de langage qu'on peut avoir. Je crois qu'il ne faut pas identifier la culture écrite, enfin, la réduire à ces formes-là, de même qu'il ne faut pas réduire la complexité du langage, comme je disais, au langage de récit et au langage hors situation.
Par rapport à la question de la construction du langage, c'est vrai qu'on se heurte quand même. Moi, j'entends beaucoup d'enseignants parler de pauvreté de langage, faire des listes, du coup, en éducation prioritaire. Hein, vous m'excusez, ça fait 20 ans, enfin, longtemps que je suis dans ce prisme-là, donc j'ai un peu de mal à penser autrement. Et c'est vrai, faire les listes du vocabulaire de la classe d'abord, et puis après du vocabulaire de la ferme, et puis après du vocabulaire, etc. Enfin bon, je caricature, mais à peine quand même dans ce que j'ai pu entendre en stage tout dernièrement, là. Et c'est vrai que quand vous aviez parlé ce matin, moi ça a fait tilt, mais pas tilt complètement, parce que du coup je mets pas grand chose après, sur l'importance de la hiérarchisation du vocabulaire, du mot important ou pas important, qui permet, alors vous m'avez dit que c'est très long à faire, donc c'est pas très gentil de ma part de vous renvoyer la question, mais c'est vrai que dans la construction de ce fameux travail sur le lexique, comment effectivement voilà, construire avec les collègues de façon à, je sais pas si c'est efficient ou efficace, enfin en tout cas que ça construise, non pas des gamins qui donnent l'impression d'arriver en grande section, que tout ce qu'ils ont fait, tout le boulot qu'ont fait les collègues, beaucoup de manipulations d'imagerie, etc., en fait, c'est pas inscrit et ils renvoient la faute aux parents, du coup. Donc voilà, comment on peut arriver à briser certains... Ça, c'est un peu utopique, hein, ce que je demande là, mais...
Ça, c'est le genre... Par rapport à la question de l'interface dont vous parliez tout à l'heure, et de l'inter... Enfin, de la position du chercheur, formateur, etc., bon, ce que je voulais dire, il me semble, enfin, c'est vraiment quelque chose qui guide depuis toujours, hein, moi, c'est qu'une partie du travail du chercheur, quand il est formateur, c'est de montrer que des questions simples, enfin, des questions qui sont des questions des enseignants, ou qui pourraient l'être, quoi, sont des questions, peuvent être des questions de recherche. Et ça, c'est une question de chercheur. C'est-à-dire qu'en fait, les chercheurs raisonnent à partir des questions de recherche légitimes, celles où il y a déjà beaucoup de choses, et qui vont produire du rendement de recherche. Il y a des questions des enseignants dont il faut montrer, en postulant que s'ils posent la question, ou s'ils disent ça, ou s'il y a ce savoir-là, ou si c'est une pratique importante, je pensais celle du tableau noir sur lequel... Je suis partie des enseignants, en me disant, mais c'est une vraie question de recherche, comment utiliser le tableau. C'est pas une question de cuisine qu'on peut montrer par compagnonnage, c'est une vraie question de recherche. Alors, la question pour le formateur... À supposer hein, qu'on sache des choses sur le lexique, bon, ben moi, je m'intéresse beaucoup, hein, donc je connais un peu la littérature là-dessus, c'est de se dire, mais à partir de quelle question, quelle est la question qui pourra aider les enseignants à changer un petit peu ou à ce qu'ils font. Et je suis d'accord avec vous qu'il faut partir de ce qu'ils savent et de ce qu'ils font, pas forcément lui dévoiler des choses nouvelles, etc. Et quelle est la question qui va permettre de partir, de mobiliser les savoirs qu'ils ont déjà, éventuellement de les déplacer, et de montrer comment des travaux, ben je pense à F. Clark, Picoche, enfin tous les travaux qui ont existé sur le lexique, il y en a moins, hein, mais peuvent intervenir là-dessus. Bon, la jugeote des enseignants, dès qu'ils discutent entre eux et qu'ils voient qu'ils mettent pas que pour eux les mots qu'ils choisissent ne sont pas les mêmes, c'est déjà aussi un élément important pour eux théoriser. C'est quand les uns disent oh non, moi c'est pas celui-là que je choisirais, mais c'est plutôt celui-là. Voilà. Alors la question, quel est le mot important, ben, je veux dire, au fond, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent, hein? Qu'est-ce que vous visez? Alors là, est-ce que est-ce que c'est un mot qu'il est important qu'ils comprennent, ou à peu près, quoi, quand ils voient dans un texte, pendant qu'ils l'entendent, ou c'est un mot qu'on pense qu'ils doivent, qu'on voudrait qu'ils l'utilisent. Alors, bon, ça, c'est une vieille distinction en français, dans les langues étrangères, entre vocabulaire passif et vocabulaire actif. Donc, c'est important. Et moi, j'ai quand même souvent en maternelle passé beaucoup de temps à apprendre des mots pour les enfants, des mots qui ne pouvaient pas faire partie de leur vocabulaire actif. Bon, à la limite, il fallait peut-être qu'ils ne butent pas dessus quand ils rencontrent dans un texte ou autre, mais ce n'était pas un mot prioritaire. Alors quand même, on a tendance, et dans les notes, quand on étudie avec les enseignants les notes dans les livres de lecture et tout ça, on explique toujours les mots rares et jamais les mots simples qui peuvent, enfin apparemment simples. Hein. Donc ça, c'est une distinction importante. Et les enseignants ne se sont pas toujours posé la question. Hein. Alors l'autre idée, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire connaître un mot ? Alors, il y a le vieux travail d'Erlich, Florin et tout ça, qui, est, à mon avis, on ne l'a pas dépassé. Il doit dater de je ne sais pas combien d'années, mais on s'en sert toujours. Où il montre qu'est-ce que ça veut dire. Il pose cette question. Alors, il donne des définitions, mais je crois qu'en formation, il ne faut pas leur dire voilà ce qu'ils ont dit. Enfin, on peut le dire. Mais que les anciens se disent mais qu'est-ce que ça veut dire connaître un mot pour moi comment, à quoi je le vois et que c'est déjà, je trouve, un élément important. Et on peut mobiliser des savoirs là-dessus. Alors, ils disent qu'il y a plusieurs niveaux de connaissances. Je ne vais pas reprendre, c'est une vieille recherche, hein, mais ils disent ce qui est vrai, c'est qu'à l'école élémentaire, hein, on voit beaucoup de mots, mais qui n'entrent pas. Les enfants reconnaissent beaucoup de mots, mais les mots actifs et les mots qu'ils connaissent bien, c'est-à-dire qu'ils sont capables de définir ou de comprendre dans plusieurs sens, il n'y a pas une grande amélioration. Hein, c'est, je vais très vite. Hein. Et donc c'est important de se. Donc on ne va pas dire voilà la recherche d'Erlich, etc. Mais dire, qu'est-ce que c'est que connaître un mot, montrer que ce n'est pas évident, essayer de guider un peu la réflexion des enseignants pour se dire à quoi je vais voir qu'un mot, à partir de quand je considérerais qu'il est connu.
Y compris par rapport. Et là, tu mets y compris le sens du contexte, la polysémie, etc. Le fait que pied, en tant que tel, ça veut rien dire. Si c'est pied du champignon, pied de l'immeuble, pied de la lettre. Est-ce que ça englobe cette réflexion ou...
Il y a beaucoup d'enfants. Alors, il y a plusieurs critères. Il y a des critères de mots qu'ils vont reconnaître dans certains environnements, mais qu'ils vont comprendre, mais jamais employer. Bon, c'est un des critères. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, hein, mais bon, on peut se dire qu'il y a des mots, c'est assez normal qu'ils ne l'utilisent pas. Il y a beaucoup de mots qui font quelquefois l'objet de travaux en maternelle. Dans ce que j'ai vu. Hein. Alors, après, il y a est-ce qu'ils comprennent ? Est-ce qu'ils sont capables ? Le problème de la décontextualisation est important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des enfants qui vont comprendre dans un contexte, mais pas du tout dans un autre. Hein. Bon. Et donc ça, c'est le fait que... Je me rends compte parce qu'on donne aux enfants quelquefois des mots abstraits. Donc, le comble, c'était quand je vais travailler sur Feuerstein. Bon, les enseignants étaient contents parce qu'il y avait des mots, hypothèses. Enfin, on donnait plein de vocabulaire métacognitif aux enfants. Et on pensait que du coup, ils avaient un niveau d'abstraction. Et puis, les enfants, hypothèses, pour eux, c'était quand ? C'était une hypothèse. En discutant avec eux sur les définitions, qu'est-ce que c'est, ça veut dire, etc. Pour eux, hypothèse, c'était le moment du dispositif Feuerstein où ils devaient prévoir un peu ce qui... Enfin, c'était pour eux une étiquette sur un moment de la situation. Donc, ils avaient donné un référent très contextuel et très concret à quelque chose que nous, on croyait un contenu méta-abstrait.
Qu'est-ce que tu as fait ? On a fait des activités.
Oui, c'est ça, oui. Donc, ce qui veut dire que le travail de connaître un mot, c'est pas la réponse du mot difficile, hein, mais connaître un mot, il y a plus, ça veut dire être capable de l'utiliser dans plusieurs contextes, qui va décoller le sens. Bon, là, j'ai beaucoup d'exemples. Hein. Tout le monde en a. Plante, les enfants qui n'imaginent pas que le mot plante, ça peut être autre chose que dans un pot sur la fenêtre, par exemple. C'est une séquence que... Hein, ou raciste, que ça peut être, c'est forcément des adultes blancs face aux enfants maghrébins. Enfin, ils ont le mot, mais c'est pareil pour les. Quelqu'un me pose la question des introducteurs de complexité. Là, il y a des travaux très très robustes là-dessus qui montrent que le sens de si, par exemple, je pense à une recherche ancienne aussi, le sens de si chez les enfants évolue. évolue et que les enfants, le mot si, les énoncés en si, enfin les phrases que nous on va percevoir comme conditionnelles, ça peut intervenir beaucoup plus tôt qu'on le croit chez les enfants. Bon, Piaget l'avait montré pour les parce que, mais que jusqu'à je ne sais plus quel âge, ça ne dit pas du tout une relation de condition. Et s'ils évoquent la condition, ils disent tout à fait autrement. Ils disent avec des imparfaits, des phrases juxtaposées à l'imparfait. Mais ce que nous, on va prendre comme une valeur conditionnelle de si, c'est nous qui pensons ça, mais ce n'est pas de la valeur. Bon. Donc ça veut dire que il faut que dans plusieurs situations, l'enfant décolle un peu et soit capable d'utiliser dans plusieurs contextes. Alors, ce que j'avais travaillé, moi, c'était dans plusieurs positions thématiques dans la phrase, par exemple, soit comme thème, soit comme prédicat. Bon, ça veut dire que c'est important pour aller vite. Oui, peut-être c'est important aussi par rapport à la maternelle, mais maintenant, c'est apparu dans les instructions. Hein. Ça a été dans les instructions de 2007, puis c'est peut-être moins étrange de dire ça. C'est que pendant très longtemps, on a beaucoup travaillé sur les noms. Et le vocabulaire, ça reste encore dans les manuels, mais dans les classes, augmenter le bagage de noms. Et dans les manuels, jusqu'à présent, on trouvait très peu de travail sur les verbes, par exemple. Alors, un exemple de connaître, c'est Clark montre, Blanchot de Venise, enfin, il y a eu des travaux là-dessus, montre que les enfants connaissent certains verbes, il y a moins de travail là-dessus, mais avec un nombre de constructions extrêmement restreint. Alors, bon, on a donné l'exemple de jouer dans les instructions, là. Hein. Jouer peut se construire avec beaucoup de types de compléments, ou plusieurs types de sujets, quoi, si vous voulez. Donc, connaître, ça veut dire pouvoir comprendre ou utiliser le mot dans plusieurs positions, thématiques, prédicatives, hein, comme sujet ou comme attribut, si vous voulez, hein, comme thème ou comme attribut, avec plusieurs constructions, des sujets animés, des sujets inanimés, enfin, etc., et puis plusieurs sens. Bon, l'exemple de frère, par exemple, c'est assez typique. Hein. Et ce qui est derrière ça c'est à l'échelle de la maternelle, c'est d'utiliser, non pas dans des fonctions de désignation, parce que souvent, quand même, quand on accroît le vocabulaire, ou même quand on commence à travailler sur la polysémie, on le fait par rapport à désignation. J'ai travaillé dans un moment sur la polysémie, alors on voyait les cartes, le mot carte est très polysémique, puis on voyait des flèches, une carte de crédit, une carte murale, etc. Donc c'est-à-dire, ça désigne ça. Et là aussi, c'est important de dire, d'essayer de dépasser cet usage, ça c'est une carte, c'est ça, mais de passer à des usages de définition, etc. Donc connaître le mot, il y a des outils, ça sert à rien de les lister d'emblée, mais si on essaie de chercher dans un enseignant au fond qu'est-ce que ça veut dire connaître les mots et comment on les choisit, on peut quand même se mettre d'accord ou controverser. Et puis au moins quand même un principe, c'est que c'est important de connaître bien certains mots qu'on va juger plus importants que d'autres. Alors, j'y arrive. Hein. Ça veut dire qu'on revient sur des mots qui ne sont pas forcément des mots rares, pas forcément des mots inconnus, mais qui sont des mots qui sont employés dans les sens restreints. Ça, je crois que c'est un principe important pour le vocabulaire. Alors maintenant, comment on va choisir ces termes importants? Il y a beaucoup de critères. Hein. Alors, il ne faut pas être... Il ne faut pas être puriste. Je trouve que on suit toujours plusieurs objectifs en même temps. Je sais que, bon, on peut dire, moi, je trouve que les enseignants se trompent peut-être quand ils font des travaux où ils cherchent des taxonomies presque exhaustives, des fruits, par exemple, ou bien qu'ils se lamentent parce que les enfants ne connaissent pas le poireau. Je me rappelle, il y avait des enfants maghrébins, tout ça, qu'ils ne connaissaient pas, mais je crois que c'est parce qu'en fait, ça n'avait pas partie de leur vie. Hein, ils connaissaient d'autres choses. Bon, mais on apprend beaucoup de taxonomies où les mots sont des noms sur les choses. Bon, pourquoi pas? Les taxonomies, c'est important. Et puis, il y a peut-être un plaisir des enfants à collectionner des mots, des noms d'animaux, par exemple. Je sais qu'il y a des enfants qui parlent très, très peu. Je me rappelle maintenant des classes de zèbres qui ne savent pas dire... et puis qui parlent du zèbre et du... qui ont des compétences désignatives sur les noms d'animaux qui sont disproportionnées par rapport à d'autres choses. Donc, moi, je crois que travailler des mots, bon, il y en a dont on a besoin, des mots encyclopédiques, hein, c'est sûr. Mais sur le travail lui-même, je pense qu'on a intérêt à travailler sur des mots qui nécessitent ce travail sur l'expérience.
Mais et pas que les...
Je vais plus vite.
Non, mais parce que je voudrais qu'on puisse prendre...
Donc c'est pour ça que je disais les états mentaux, les émotions et tout ça, parce que je trouve que c'est un autre travail. Alors, c'est les mots qui nécessitent un travail de catégorisation, où ils doivent faire le travail de comparaison, de confrontation. Bon, si on réfléchit sur... Parce que c'est pareil d'être en colère et d'être méchant, par exemple, un exemple, ou d'être sévère. Il y a toutes sortes d'opérations qu'on fait avec ça qui, à mon avis, sont transférables. Donc, la question du vocabulaire devient une acquisition. Et donc, qu'est-ce qui... je vais arrêter. Parce que...
on continuera demain sur cette histoire de vocabulaire puisque Christine Passerieux a prévu de nous en parler à sa façon. Ce qui sera intéressant, justement, par rapport aux différentes entrées de la recherche, c'est qu'on repose les mêmes questions à plusieurs intervenants et qu'on voit comment ils nous répondent les uns et les autres en fonction de leur cadre. Juste un petit document que je voulais signaler, pas exclusivement sur la maternelle, pas du tout. C'est le travail d'un conseiller pédagogique dans la collection qui s'appelle « Au quotidien », qui travaille sur vocabulaire au cycle 3, mais qui dit des choses... j'ai relu vite fait pendant que tu parlais. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui rejoignent tout à fait les propos d'Elisabeth. Je voudrais poser une question, moi, de mon côté, à Catherine Dumas, parce que on a assisté pas mal de fois, là, sur cette espèce d'inflation, de travail un peu régressif, trop de fiches, trop de tâches dont on comprendrait plus le sens. Enfin, je veux dire, vous avez été plusieurs à insister sur sa régresse. Et puis, ce matin, dans les propos de Viviane Buiss, hein, c'était des choses que vous nous avez indiquées comme étant un fait, quoi. Alors, moi, la question que je me pose, on va peut-être pas répondre, hein, mais enfin, on va peut-être pas avoir toutes les réponses maintenant, mais Pourquoi donc est-ce que il y aurait cette tentation un peu régressive de la maternelle à un travail trop formel? D'où ça vient, selon vous, hein, en sachant que c'est vraiment un point de vue singulier que je vous demande? Est-ce que les enseignants sont en train de se transformer, les enseignantes de maternelle? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait pression et qui font qu'on a de la primarisation excessive, du travail trop formel? Enfin, voilà, il y a quelque chose là qu'on a fait tourner dans nos réflexions. Est-ce qu'on pourrait voir ce que vous en pensez?
Alors, ce que j'en pense, c'est que peut-être c'est une analyse de société à faire. C'est-à-dire, l'école maternelle, par définition, elle est un petit peu déséquilibrée entre une école qui sert quand même très fortement des parents d'élèves parce qu'elle est gratuite, même si elle n'est pas obligatoire, et donc elle accueille des enfants avec une socialisation qui est importante et qui est attendue. Donc les parents se déchargent un peu sur cette école maternelle par certains côtés. Du coup, on se retrouve un peu dans des situations complexes pour la fréquentation parfois régulière. On se retrouve dans des situations complexes sur l'heure d'arrivée à l'école maternelle, sur le temps d'accueil, sur des choses comme ça. Et puis, d'un autre côté, il y a énormément d'attentes aujourd'hui sur l'école maternelle. Les parents sont quand même dans une dynamique de réussite totale des enfants, dans un parcours scolaire qui est souvent est très long. Et on se retrouve confronté avec des parents, enfin je ne sais pas si vous le vivez dans des écoles ou dans des circonscriptions, où il y a un peu une progression, enfin moi je le constate dans ma circonscription en tout cas, de demande de passage anticipé à l'école élémentaire. On a presque le sentiment que plus on ira vite à l'école élémentaire avec une année d'avance, et plus on a un capital temps qu'on va pouvoir peut-être réutiliser ou récupérer plus tard quand il sera temps de faire des choix en termes d'orientation. Enfin, on a l'impression que les parents sont dans cette dynamique de temps. Et que plus on va mettre de contenu dans notre école maternelle, très rapidement on va arriver au CP peut-être un peu plus tôt, avec des apprentissages qui seront bien installés, et il y a de véritables attentes. Hein. Quand on regarde certaines formations privées, aujourd'hui, elles font quand même une clientèle très importante sur remise à niveau des enfants en fin de grande section pour aller au CP. Hein, je ne veux pas les citer, mais il y a aussi cette influence-là. Du coup, qu'est-ce qu'on montre à ces parents-là pour faire la preuve que notre école maternelle est vraiment une école très efficace? Et bien souvent, on a ces fameuses fiches, ce travail très formel, qui somme toute est de l'évaluation un petit peu à outrance, hein, parce que évaluer comme ça de façon individuelle tous les jours les enfants, sachant qu'ils peuvent faire une, deux, trois fiches dans une journée, c'est vraiment du travail formel, hein, comme dit très bien Viviane Bouys. Et le pourquoi de cette formalisation, je crois que c'est pour répondre, quand on est enseignant, beaucoup à des attentes de la famille, me semble-t-il. Hein. Sans compter qu'après, il y a aussi des intérêts, à mon avis, on peut parler des mathématiques, par exemple. Hein. Il n'y a quand même rien de plus naturel que d'enseigner les mathématiques à l'école maternelle avec de la manipulation. Et on a tendance à voir arriver des fichiers de façon assez importante jusqu'en petite section pour évaluer le plus régulièrement possible les mathématiques au quotidien. Donc là aussi, je pense qu'il y a des enjeux, hein, qui nous dépassent un petit peu, mais qui entrent de fait directement à l'école maternelle et qui sont soumis en permanence à la réflexion des maîtres.
Est-ce que vous avez d'autres points de vue ou des points de vue convergents avec celui-là sur cette question? Qu'est-ce qui fait que cette école maternelle sombrerait, enfin, les enseignants seraient soumis à la pression?
Alors, ce ne sont pas vraiment des hypothèses, pour l'instant, ce sont des interrogations encore. Je pense qu'aussi on peut se tourner vers ce qui se passe en amont, c'est-à-dire du côté des structures d'accueil de la petite enfance. Parce que dans les crèches, dans les jardins d'enfants, on se dote clairement aujourd'hui de projets éducatifs. Et un certain nombre d'activités qui sont faites dans ces structures d'accueil s'apparentent à ce qu'on a pu voir ou à ce qu'on peut voir dans un certain nombre d'écoles maternelles. Donc je me demande dans quelle mesure il n'y aurait pas une volonté de se différencier et que cette volonté de se différencier se traduirait par une espèce de fuite en avant vers une scolarisation précoce ou une primarisation souvent prématurée.
Je me demandais, Mme Dumas, s'il n'y a pas, en plus de la pression des parents, peut-être, elle est différente, hein, selon les niveaux, selon les lieux sociaux quand même, de cet aspect-là. Aussi, l'impression qu'on a eue, moi, dans le stage que j'ai fait là, il n'y a pas longtemps, c'est d'une surprescription, c'est-à-dire de prescription de l'éducation nationale, qui a aussi le rôle des médias, qui est important, sur l'évaluation en grande section, etc., qui a fait que des collègues me disant « Mais si, c'est dans les instructions officielles que telle petite compétence, il faut la mesurer. » Je lui dis « Mais montre-moi, parce qu'il n'y a pas dans les instructions officielles. » Donc il y a une espèce de aussi qui se rajouterait pour moi d'incompréhension ou peut-être de superposition d'injonctions qui, à un moment donné, surtout chez des plus jeunes collègues, sont « Est-ce que je suis au bon endroit ?» Et donc, pas forcément du côté de la résistance et de l'identification de ça, mais du côté de, ben oui, pour être une bonne enseignante, il faut que j'évalue, parce que le socle commun, en fin du palier 1, doit évaluer. Je ne remets pas en cause le socle commun, là-dessus, c'est autre chose. Hein, mais dans les malentendus de compréhension. C'est le sentiment qu'on a eu avec des collègues IEN. On s'est dit, il y a quelque chose de l'ordre de la surprescription, ou de la malentendue de prescription.
Je pense, oui, que la problématique de la communication, ne serait que des médias, hein, vous avez raison, parce que, par exemple, sur l'évaluation, aujourd'hui, on n'a que deux prescriptions, c'est-à-dire le livret scolaire et un bilan des acquis des élèves en fin de grande section. Hein, tout le reste, pour l'instant, a été dit, a été porté, mais dans les classes, effectivement, on a des choses qui ne sont pas arrivées, hein, en tout cas à cette date. Alors, il serait peut-être quand même important aussi de définir avec des enseignants, et là, en formation, cette idée de qu'est-ce que l'évaluation, hein, parce que l'évaluation, moi, je suis quand même d'avis qu'il en faut à l'école maternelle, mais l'évaluation, c'est une analyse du parcours de la réussite des élèves tout au long de ces acquisitions. Donc l'évaluation, elle commence dès qu'on rentre à l'école maternelle, et chaque fois qu'il y a une compétence qui est acquise, c'est ça l'évaluation positive de l'élève, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est capable de faire maintenant, mais que mon petit camarade n'est peut-être pas encore à mesure de faire, parce que lui, il a un peu de temps, parce qu'il y en a un qui est né en janvier et l'autre qui est né en décembre, et ça change beaucoup de choses à cet âge-là. Voilà. Après, il y a l'idée de validation, et ça, c'est la validation un peu terminale dont on a peut-être besoin aujourd'hui, hein, en termes d'analyse de l'école maternelle, et se dire que quand on quitte l'école maternelle, qu'est-ce qui est acquis, hein? Sachant que ce qui n'est pas acquis, c'est pas forcément à pointer comme étant une difficulté scolaire, parce que ça va pouvoir se poursuivre à l'école élémentaire, et que le petit qui va rentrer au CP, ben là aussi, c'est pas quelque chose qui est très homogène. Il faudra continuer à poursuivre ce travail-là. Donc je pense que c'est vrai que l'évaluation à l'école maternelle, il faut être vigilant en termes de définition. Qu'est-ce qu'une évaluation? Qu'est-ce qu'un bilan? Et que certains types d'évaluation de l'école élémentaire seront beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre à l'école maternelle, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enfants à ce moment-là.
Je partage vos propos concernant la surenchère de l'école maternelle. Et je crois que c'est un point de vue qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que c'est vrai que pour avoir un panorama un petit peu européen de ce qui se passe, donc de l'accueil de la petite enfance, il semble qu'en France, nous soyons un des pays, finalement, où on est dans un modèle qui n'est pas intégré. C'est-à-dire que dans les autres pays, la structure 0 à 6 ans, c'est une structure unique, ou au moins avec, j'allais dire, un contrôle et une gouvernance qui soit une seule gouvernance, à savoir un ministère donné. Et en France, on se trouve un peu écartelé entre les crèches, qui dépendent donc d'un ministère, et puis l'école maternelle, qui effectivement dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et moi, je ressens exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'idée de se démarquer des structures petite enfance, non seulement à travers cet aspect-là des choses, mais même par rapport au travail des ASEM. On pourrait développer longuement cette affaire-là. Et cette nécessité, certainement en France, peut-être d'envisager un modèle un petit peu plus intégré, je ne sais pas.
Et alors, par rapport à la pression que pourraient exercer les parents donc, sur l'école, une chose qu'il faut remarquer déjà en éducation prioritaire, c'est qu'on observe une porosité des milieux sociaux, c'est-à-dire des pratiques des parents qui maintenant diffusent au niveau des parents issus des milieux sociaux défavorisés ou populaires. Donc ce qui fait qu'on a aussi une pression maintenant en ZEP. Et il y a, semble-t-il, une superposition de deux notions, qui est la notion d'apprentissage et de travail. Et justement, l'apprentissage, pour beaucoup de parents, c'est le travail. Et le travail, c'est le faire. Donc c'est ce qu'on voit aussi dans la satisfaction des parents à trouver beaucoup de fiches collées dans les cahiers des élèves. Et ça, c'est un gros, gros problème. C'est-à-dire que travailler, c'est... apprendre, c'est travailler. Et travailler, c'est le faire et pas le dire. Moi, je suis enseignant supplémentaire, issu du second degré, mais je travaille depuis quelques années en maternelle. Et justement, lorsque je mets en place des situations de langage avec les enfants... Il peut arriver qu'au bout de 20 minutes, les enfants, et ça c'est assez fréquent, renvoient la question « Mais maître, quand est-ce qu'on travaille ?» Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Et évidemment, ça vient d'une prégnance à la fois des enseignants, qui est distillée à la fois par les enseignants, je pense, dans les pratiques pédagogiques, mais aussi les parents.